Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B. Tous les samedis à 11h, rediffusion le dimanche à 16h30.
Bonjour tout le monde, bonjour Blaise.
Bonjour.
Bonjour Sandrine.
Bonjour Juliana.
Comment allez-vous les filles?
Bah, très bien.
Ah, ouais. Très chaud, très très bien.
Avec le ventilo quand même. Hein.
Ouais. Oui, bien sûr.
Ouais. Quel accueil.
Donc nous sommes aujourd'hui ici à l'antenne de Canal B pour parler de nos coups de cœur. Sandrine, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Eh bien, je vais parler d'un classique de la littérature française. Si je vous dis Marguerite Duras, évidemment, on pense à plein de titres. Et celui que je vais vous présenter ce matin, eh bien, c'est Moderato Cantabile.
Blaise, de quoi vas-tu parler?
D'un super livre fantastique, mais d'horreur un peu, Otage de la nuit.
Il était écrit par qui?
J.A. White.
Ma maison d'édition.
Nathan.
Moi, je vais vous parler de très beau livre de Sophie Marceau. Ce sont 13 histoires et 7 poèmes. Ça s'appelle La Souterraine. C'est paru aux éditions Segers. Ok, tu veux ouvrir le bal?
Bien sûr. Donc, mon livre, ça va être Otage de la nuit. C'est un livre de littérature jeunesse qui parle d'un jeune garçon qui s'appelle Alex. Et pour rentrer un peu plus dans le livre, un soir... alors que tout le monde dort dans son appartement, il va décider de brûler ses cahiers secrets. Il écrit des histoires d'horreur et du coup, bah, les autres, ils le traitent de bizarre, de sorcier et tout ça. Il va aller dans un ascenseur parce qu'il habite dans un appartement.
Dans un immeuble.
Dans un immeuble, voilà. Il va appuyer sur le bouton sous-sol pour aller brûler ses cahiers au sous-sol pendant que tout le monde dort. Mais l'ascenseur va l'emmener dans un étage qu'il ne connaît pas, alors qu'il connaît son immeuble par cœur pourtant. Et il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Les lampes sont vieilles, donc c'est-à-dire le couloir est peu allumé. C'est le couloir le plus sombre de l'appartement.
Ça fout la frousse, quoi.
Oui, voilà, mais il y a un peu de lumière quand même. Mmh. Et là, il voit une porte un peu entrouverte. Il entend des discussions, donc il se dit, bon, allez, je vais voir. Donc il y va. Et là, il entend des dialogues, genre des phrases de personnages. Et là, il reconnaît la musique de son film préféré d'horreur, qui s'appelle La Nuit des Morts Vivants. Il l'avait vu à ses 6 ans, alors qu'il n'avait pas le droit, pendant que ses parents le regardaient, il s'était caché derrière le canapé, il l'avait regardé.
Tiens, tiens.
Et du coup, il avait une terrible envie de le revoir. Il va toquer 3 fois à la porte, et là, il y a une vieille dame, elle a moins de 30 ans, et elle est... Pardon, je me suis trompée. Elle est grande, un peu gronde, et elle est toute habillée en noir et elle est très maquillée. Et elle lui demande qu'est-ce qu'il veut. Lui, il va lui dire « Oh pardon, je sais pas pourquoi j'ai toqué, j'avais entendu juste le film de La Nuit des Morts Vivants et du coup, bah, je sais pas ce qu'il m'a pris, voilà. » Et la dame, bah, elle va réussir à le faire rentrer et il va se faire prendre au piège en fait. C'était une sorcière et donc la porte se referme et elle va dire « Priora !» L'appartement, il avait l'air chic avec des cookies et même une tarte au potiron, son dessert préféré, et avec un petit verre de lait sur la table basse. Et par contre, l'appartement, dès qu'il est rentré, tout est changé. C'est-à-dire, le décor a changé. Il va rencontrer une autre fille qui s'appelle Yasmine, voilà.
Yasmine.
Ça donne envie, Sandrine.
Mais c'est impressionnant. Ça m'a rappelé un petit peu, tu sais, Harry Potter, quand ils sont sur le quai de la gare et qu'ils trouvent un accès pour aller au château.
Ah oui, oui.
Une voie qui n'existe pas. Je crois que c'est la voie 7 3 quarts ou 6
oui, 3
quarts.
Oui, c'est ça.
Et c'est extraordinaire. Ça fait toujours rêver, cette idée d'arriver sur un lieu qui n'existe pas et qui, pour autant, existe, en tout cas, dans la littérature.
Oui.
Est-ce que tu veux bien nous lire quelque chose?
Eh bien, en fait, là, mon passage est un peu spécial. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas être les moments dans l'histoire. Ça va être une histoire qu'a écrit Alex. L'histoire du livre que j'ai choisi de vous présenter, c'est Monsieur Boots. Monsieur Boots était un ours blanc en peluche avec des petites bottes rouges. Tom l'emmenait partout. Il le poussait sur sa balançoire dans son jardin, il le serrait contre lui durant les scènes effrayantes de ses séries télé préférées. La nuit, quand il était censé dormir, Tom lui chuchotait à l'oreille et parfois Monsieur Boots lui répondait. Les années passèrent, Tom grandit et Monsieur Boots fut relégué sur une étagère. De nouveaux jouets avaient remplacé les anciens, un ballon de basket, un iPad, une console 3D. Tom commence à remarquer des choses étranges. Un jour, il voulut utiliser son iPad, mais vu que l'écran était fêlé. Une autre fois, il trouva au réveil sa DS 3D au fond d'un lavabo rempli d'eau. Dès qu'un jouet était cassé, Tom retrouvait Monsieur Boots dans son lit et non plus sur l'étagère, comme si l'ours en profitait pour se rappeler à son bon souvenir. Tom commença à se méfier, même s'il savait très bien qu'un animal en peluche était incapable de détruire un iPad ou de faire couler de l'eau dans le lavabo dans la salle de bain. C'était à devenir fou. Un jour, au jardin, Tom entendit un sifflement s'échapper de son nouveau ballon de basket. Quelqu'un l'avait entaillé avec un objet pointu. Le lendemain matin, quand Monsieur Boots réapparut dans le lit, ses petites bottes rouges étaient toutes crottées. C'en était trop. Tom jeta son ours à la poubelle. Mais le jour suivant, Monsieur Boots était de nouveau dans le lit. Il sentait la peau de banane et la marque de café. Tom prit peur. Il ne pouvait pas en parler à ses parents. Ils ne l'auraient pas cru. Il attendit alors d'être en vacances dans un pays ensoleillé et lointain où sa famille et lui s'étaient rendus en avion. Tom avait emmené Monsieur Boots. Le dernier jour, il l'enterra dans le sable. Cette fois, Monsieur Boots ne réapparut pas. Au bout d'un certain temps, Tom finit par l'oublier et se dit que toute cette histoire n'avait existé que dans son imagination. Il grandit et quitta son foyer pour aller à l'université. Là, il rencontra une jeune fille. Ils se marièrent et eurent un fils qu'ils appelèrent Olivier. Une nuit, où il neigeait, Tom se réveilla persuadé d'avoir entendu des rires dans la chambre d'Olivier. Il ne s'en inquiéta pas. Olivier avait beaucoup d'imagination, comme son papa quand il était jeune. Tom se rendormit. Le lendemain matin, Olivier avait disparu. Tom et sa femme le cherchèrent en vain dans toute la maison, puis à l'extérieur. Dans la neige fraîche, des traces de pas menaient à une forêt des environs. Juste à côté des empreintes de leur fils, il y en avait d'autres, beaucoup plus petites. Tom reconnut les semelles des bottes rouges. Plus jamais ils ne revirent Olivier.
Quel suspense, ça, dis donc.
Ah bah oui.
Eh bien, c'est « Otage de la nuit » paru aux éditions Nathan et qui a été écrit par...
J.A. White.
Tu recommanderais ?
Eh bien, quand même 12-13 ans. Mmh. Parce que avec... Enfin, vous pouvez lire un peu plus haut, mais moi, je conseille 12-13 ans parce qu'il y a un peu d'histoire d'horreur.
À savoir
d'horreur.
Que toi, tu as 10 ans.
Oui.
Très bien, madame. Bon, tout est bien entendu. Merci beaucoup.
Mais de rien. Merci.
Sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus et nous sommes ensemble avec Blaise et Sandrine. Mais si vous me permettez, les filles, je vais vous raconter un petit peu une rencontre d'ailleurs de cette semaine. J'ai eu la chance, le bonheur d'animer une rencontre littéraire avec Sophie Marceau. La Souterraine, paru aux éditions Segers. C'est un livre qui dévoile pas mal Sophie Marceau, autant qu'individu, autant qu'être. C'est assez saisissant de voir cette femme qui a déjà vécu des milliers de vies, on va dire ça comme ça. Mmh. Non, peut-être pas des milliers, bien sûr, mais qui a déjà incarné tellement d'autres vies, s'opposer et puis avoir son propre regard sur le monde et sur diverses choses qu'elle aborde dans le livre, donc les conditions sociales, par exemple, le changement de classe, sa vie dans le cinéma. D'ailleurs, elle parle de son métier par moments également. Elle parle d'amour, bien sûr, des nombreuses sortes de relations. Et tout ceci est donc fortement inspiré peut-être d'un environnement dans lequel la connaît de l'intérieur. Sa vie a énormément changé avec son gros succès, mais elle a vraiment un grand respect eh bien, des personnes de la classe ouvrière dont c'est issu ses parents. Tout ceci est raconté, c'est vraiment une fiction. On ne sait pas exactement où est-ce qu'il y a la vérité, où est-ce qu'il y a la fiction. Elle mélange le tout et elle va parsemer entre les 13 histoires qu'elle raconte, des très jolis textes poétiques. Et c'est une poétesse en fait, hein. C'est très agréable. D'ailleurs, elle a lu face au public deux de ses poésies qui sont publiées dans ce livre. Et en particulier, je voulais quand même dire au niveau des histoires que j'ai absolument adoré la toute dernière qui s'appelle L'élu, qui est une histoire qui parle de sa maman, d'une certaine période, de comment il y a quelque chose de très fort qui reste, qui se transmet et de toute beauté, quoi. Donc, je vous conseille fortement de lire ce livre. Je vais me permettre, et je vais faire beaucoup moins bien que Sophie Marceau, certainement, de vous lire un poème.
Avec plaisir.
Donc, bien sûr. Voilà, je me lâche, hein, on verra bien ce que ça donne. J'adore la poésie, mais c'est vrai que de là, le lire. De rien, d'un grain, d'un oubli. Naître de rien, d'une poussière, d'un terrain immense, d'un jeu sans limite. De rien, je viens, à rien, je vais. M'absente en permanence, je disparais. À n'y plus exister, quelle légèreté de n'être pas, et quel poids de n'être rien. Je suis né d'un gravier, d'un chuintement inconnu, entre deux feuilles de papier, si le papier avait existé. Ou bien chienne, ou bien bossue. Suis-je née du pas d'un boiteux, d'un monde intermédiaire, d'un tissu de crêpe entre une vague et un creux, d'une synapse électrique, de la traînée de bave, d'un épileptique, et de loin des sons me parviennent, ceux d'un animal qui crie, quadrupède, chienne ou rompant. Je me couche sur le lit, mes doigts écartelés miment la cime des étoiles. Je glisse, ne se met de saisir, de cette envie de vivre, par intervalles, ressurgissant de la terre, je suis montée à l'envers, je suis née de rien, d'un bracelet de rien, d'une écorce d'arbre pelé, de la toux dont vaut rien.
Bravo!
Ça donne très envie. Moi aussi, j'adore la poésie. Merci pour ta lecture.
Ouais, merci beaucoup.
C'est pas facile de lire la poésie. Hein. C'est très agréable de lire dans sa tête. C'est très agréable de lire et de relire dans sa tête. Et c'est très agréable de pouvoir s'accorder le temps pour le faire. C'est chouette, ça.
Oui, absolument. Ouais.
Et donc, voilà, je trouve que c'est quand même une merveille d'avoir autant de talent, autant qu'individu, autant que personne, autant qu'actrice. Et aussi, savoir maintenant qu'il y a plus de 50 ans, savoir encore se renouveler et encore venir montrer à un public des talents qui émergent. Donc, je la félicite et puis je vous recommande de lire Sophie Marceau. Mmh, c'est chouette.
Très, très envie. Très envie. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Je crois qu'on a plusieurs vies, quelles qu'elles soient, au sein de notre propre existence, j'en bégaye. C'est un peu simple ce que je viens de dire, mais oui, on a plusieurs vies, évidemment.
Plusieurs
oui.
vies.
Plusieurs oui. vies.
Et avec ceci, il y a aussi les mamas de Congo qui ont plusieurs vies, plusieurs
Mama.
Voix. C'est beau, c'est beau.
Oui, c'est super hey, yeah. beau. Waouh.
Mama boni sakwani mama sala 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 mwaja tsengo mulosa mpashena mwatu sala sala
salambo aja amama bonisa kwani mama salasa salambo aja tengo mulo samba chena mwatu salasa salambo aja
l'arbre sacré de tata malanda mokuru akoma qu'il donnait aux sorciers n'a pas pu finir le kundu mumpamba mumpamba uhone le bantu est-ce que beto kundu ritatu kwamisa yachi kakundu ako bisalu doneno sari tabokesa yachi sala kwatu tatombe ngachi tanunga Ambe salu chitukule Amama bonisa kwani mama
sala sala salambo aja tengo mulo sampa shena mwatu sala sala salambo aja
Amama bonisa kwani mama
sala sala salambo aja tengo mulo sampa shena mwatu sala sala salambo aja
Nti wankasa walemba kana mumanisa kundu 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 mpandu mpandu kampandu shiyokele Hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu Mayela mama bote, ambo ka mpandu we. Ambe mpandu ni muntu we misiki mora masamba. Ah.
Amama
bonisa kwani mama.
Sala sala. Salambo aja. Tengo mulo sampa shena mwatu. Sala sala. Salambo aja.
Amama bonisa kwani mama.
Sala sala. Salambo aja. Tengo mulo sampa shena mwatu. Sala sala. Salambo aja.
Ritata.
Kongo jata ngulu jata 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 Pota pota pota
Samulungela ngela
Pota pota pota
Samulungela ngela
E pota pota pota
Samulungela ngela
Mama bale
ambiance dans le studio de Canal B avec cette chanson qui nous a mis tout en train
de danser
un petit peu là sur
oui.
nos chaises.
Ouais,
trop
absolument.
Cool.
Trop bien.
Pour entendre Marguerite Duras.
Absolument. À chaque fois que je fais une chronique, j'ai du mal à choisir tellement j'ai envie de parler d'autrice et d'auteur. Et puis finalement, je me suis dit, je vais revenir à mes premières amours. Marguerite Duras, j'ai eu la chance de la rencontrer très jeune à travers la littérature, pas dans la vraie vie, si je puis dire. Mais finalement, et si la vraie vie était dans les livres ? Vous avez deux heures. Non, je plaisante. Le sujet de philo, c'était hier. Alors voilà, j'ai envie de vous parler évidemment de moderato cantabile. Est-ce que vous savez ce que c'est moderato cantabile ?
Moi, j'en ai aucune idée.
Moi, je me demande si ce n'est pas quelque chose lié à la musique, tout simplement.
Absolument, c'est complètement ça. En fait, c'est une indication de tempo, de temps, une indication musicale qui veut dire que le morceau doit être joué ou chanté à un rythme modéré. Modéré. Moderato cantabile. Évidemment, c'est de l'italien. Et en fait, ce que j'adore, c'est que le titre annonce le ton du livre. C'est-à-dire qu'on va être dans une lecture... pas modéré, parce que c'est pas l'adjectif, mais quelque chose qui nous met dans une sorte de langueur. Pas de lenteur, de langueur. Et dans le mot langueur, il y a aussi quelque chose qui indique l'atmosphère du livre. Un petit peu humide, un petit peu ouaté, un petit peu... Et aussi, c'est un livre de suspense, Blaise. Ça rejoint un petit peu L'Otage de la nuit, bien évidemment, juste dans l'idée d'être un sujet thriller, presque policier, en tout cas de l'inquiétude. Oui, nous sommes bien dans un ouvrage qui amène de l'inquiétude. De quoi parle-t-il ? Une femme, Anne, qui amène son enfant à des cours de piano. Et puis un jour, Au premier chapitre, ce livre en est composé de 8, elle entend un énorme cri, mais un cri d'une violence, d'une douleur, d'une tragédie absolue. C'est une femme qui est tuée. Voilà le point de départ du livre. Et évidemment, cette femme, Anne, va voir ce qui se passe. Et à partir de là, le livre débute sur une tragédie. Qui est cette femme qui a été tuée? Quelle est cette femme dont on parle, Anne? Quel est aussi le mari qui est là, sans être nommé, et surtout un autre homme qui s'appelle Chauvin. Elle va rencontrer dans un café cet autre homme avec qui elle va changer radicalement de vie, être dans une forme de passion. Et là, on quitte la modération pour arriver dans la passion.
Est-ce que l'enfant aussi va être tué ou...
Ah non, on ne peut pas tout dire. Mais bien sûr, tu as raison parce que on s'adresse à un public aussi jeune et je rassure tout de suite le public. Non, l'enfant est juste... Le juste, c'est pas le mot que je voulais dire. Il est là parce qu'il est dans la réalité de cette femme mariée de la grande bourgeoisie avec son mari qui est éloigné, même en étant proche physiquement. Voilà, comme dans beaucoup de couples, ça arrive. Et elle rencontre un autre homme. Alors voilà, c'est un roman quand même qui a été écrit en 1952. Tu imagines 1952 ? Nous n'étions pas nés, hein, sachons-le, tout de
non,
même pour le
public. Non, on n'était pas nés.
Non. Alors, ce que j'adore, c'est qu'il y a un film qui a été tourné en 1960 avec la très grande Jeanne Moreau, que j'adore, et Jean-Paul Belmondo. Tous les deux, ils sont absolument craquants. Alors, ce qui est aussi intéressant, évidemment, à part dans l'adaptation cinématographique, c'est que ça se passe dans l'estuaire de la Gironde, près de Bordeaux, alors que le livre n'en parle pas du tout. On peut imaginer où c'est. C'est un paysage de bord de mer, mais pas la bord de mer, le bord de mer, pardon, balnéaire. On est vraiment dans autre chose. Et puis, évidemment, j'ai aussi envie de parler de Marguerite Duras, mais de Trouville. Marguerite Duras a fini sa vie à Trouville, dans un endroit merveilleux qui s'appelle l'Hôtel des Roches Noires. L'Hôtel des Roches Noires, où on voit le Havre. Peut-être que ça l'a inspiré, peut-être pas, puisqu'en 1952, je ne sais pas si elle avait déjà acquis l'Hôtel des Roches Noires. Mais voilà, c'est un endroit qui est absolument magnifique, qui nous porte à visualiser cet endroit, à être dans une histoire d'amour où le cri amène à quelque chose. Peut-être qu'on peut penser au cri de Munch, ce grand peintre qui nous a montré ça, ce que ça veut dire.
Est-ce que cette histoire qu'elle a écrite, c'est une histoire vraie ?
Alors là, je ne saurais pas capable de te le dire. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu comme Sophie Marceau. On appelle ça de l'autofiction ou de la fiction. En quoi ça peut être intéressant de le savoir ou pas. Je pense qu'elle s'est inspirée de choses, oui, bien sûr, qui composent sa vie. Et encore, je m'avance. Après, on est dans l'interprétation. Ce qui est certain, c'est que ça parle d'amour. Et l'amour est universel dans ses beautés, dans ses joies, dans ses chagrins, dans ses passions, dans ses déraisons et quelquefois dans ses moderato cantabile. J'ai envie de vous lire un extrait. Est-ce que vous avez envie aussi d'écouter
oui,
un petit peu ce qu'il
on
y
a envie de dire.
Le beau temps durait encore. Sa durée avait dépassé toutes les espérances. On en parlait maintenant avec le sourire, comme on l'eût fait d'un temps mensonger qui eût caché derrière sa pérennité quelques irrégularités qui bientôt se laisseraient voir et rassureraient sur le cours habituel des saisons de l'année. Ce jour-là même eut égard au jour dernier, la bonté de ce temps fut telle, pour la saison bien entendu, que lorsque le ciel ne se recouvrait pas trop de nuages, lorsque les éclaircies duraient un peu, on aurait pu le croire encore meilleur, encore plus avancé qu'il n'était, plus proche encore de l'été. Les nuages étaient si lents à recouvrir le soleil, si lents à le faire, en effet, que cette journée était presque plus belle encore que celle qui l'avait précédée. D'autant que la brise qui l'accompagnait était marine, molle, très ressemblante à celle qui soufflerait certains jours dans les prochains mois. Certains prétendirent que ce jour avait été chaud. La plupart nièrent, non, sa beauté. Mais que celle-ci avait été telle que ce jour avait été chaud, certains n'eurent pas d'avis. Anne ne revint que le surlendemain de sa dernière promenade sur le port. Elle arriva à peine plus tard que d'habitude. Dès que Chauvin l'aperçut, de loin, derrière le môle, il rentra dans le café pour l'attendre. Elle était sans son enfant. Anne entra dans le café au moment d'une longue éclaircie du temps. La patronne ne leva pas les yeux sur elle, continua à tricoter sa laine rouge dans la pénombre du comptoir. Déjà, la surface de son ouvrage avait augmenté. Anne rejoignit Chauvin à la table où il s'était assis les jours qui avaient précédé au fond de la salle. Chauvin n'était pas rasé du matin, mais seulement de la veille. Le visage d'Anne manquait du soin qu'elle mettait d'habitude à l'apprêter avant de le montrer. Ni l'un ni l'autre, sans doute, ne le remarqua. « Vous êtes seul ?» dit Chauvin. Elle acquiesça longtemps après qu'il ait dit à cette évidence, tenta de l'éluder, s'étonna encore de ne pas y parvenir. « Oui. » Et pour échapper à la suffocante simplicité de cet aveu, elle se tourna vers la porte du café. La mer. Les fonderies de la côte vont briser au sud de la ville. Là, dans le port, le sable et le charbon se déchargeaient comme à l'accoutumée. « Il fait beau, » dit-elle. Dans un même mouvement que le sien, Chauvin regarda au dehors, scruta aveuglément le temps qu'il faisait ce jour-là. « Je n'aurais pas cru que ça arriverait si vite. » La patronne, tant durait leur silence, se retourna sur elle-même, alluma la radio sans aucune impatience, avec douceur même. Une femme chanta loin dans une ville étrangère. Ce fut Anne qui se rapprocha de Chauvin.
Magnifique, on a une espèce de insecte.
Papillon de nuit.
C'est pour ça que j'ai rigolé.
De jour ou de nuit, j'en sais rien.
On peut prendre ça peut-être comme un signe.
Exact.
Extraordinaire.
Magnifique. Donc on termine avec
Moderato Cantabile de Marguerite Duras.
Et c'est absolument génial de partager tous ces coups de cœur avec vous aujourd'hui. Merci, merci Blaise. Merci Sandrine.
Merci à vous, avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Écoutez Le Nombril de Vénus en podcast sur canalb.fr.
Bisous, bye.